Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 9. Donc on est dans le livre en français, on est à la page 133. On est en plein milieu du chapitre 9.
133, oui, exactement.
Les autres, pour ceux qui ont les autres livres.
133.
Merci. On est à la page. On est à la page 26. Juste tout en bas de la page 26, dernière ligne. Arinek. Donc, on fait un topo rapide. On fait un topo rapide de ce qu'on a expliqué la semaine dernière.
Laisse un peu de.
Là, il y en a encore là-bas.
Tiens. Allez, messieurs, on attaque. Je fais un rappel rapide de ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a expliqué qu'en vérité, dans le corps, nous avons deux quartiers généraux. Le quartier général du cœur et le quartier général de l'esprit, le cerveau. Et que de la même manière que médicalement, ça s'explique biologiquement, que le cœur et le cerveau sont deux organes vitaux, mais qui sont l'un aussi important que l'autre, et que chacun a sa fonction. Le rôle du cerveau, on a expliqué la semaine dernière, c'est de donner des ordres à tous les membres du corps. Tous les membres du corps ont besoin des ordres du cerveau. Et le rôle du cœur, c'est une pompe qui pompe le sang, qui le remplit d'oxygène, donc qui oxygène le sang, et qui renvoie le sang. De la même manière, on a expliqué que spirituellement, ça s'exprime dans le fait que nous avons deux âmes à l'intérieur de nous. Une âme qui s'appelle l'âme animale, qui veut faire des bêtises, qui veut faire pas mal de choses qu'on va expliquer, et une autre âme qui s'appelle l'âme divine. On a expliqué la semaine dernière que le siège de l'âme animale se trouve où ? Se trouve dans le cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le sang. Et le sang, c'est quoi ? Le sang, c'est la chaleur. C'est quoi la chaleur ? La chaleur, c'est ce qui nous pousse à faire des bêtises. D'accord ? La chaleur, parce que le cœur, c'est chaud, c'est pas réfléchi comme le cerveau. François. Alors que, d'un autre côté, on a expliqué. Donc ça, c'est le cœur. Donc le cœur, ça représente l'âme animale. D'un autre côté, le cerveau, ça représente l'âme divine, parce que le cerveau, dans le cerveau, tout est carré, tout est réfléchi. Et donc, on a expliqué que c'est une guerre constante, et justement, aujourd'hui, on va parler de cette guerre, donc on va reprendre à l'histoire de la guerre qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Donc, mais rappelez-vous, c'est important de comprendre qu'il y a deux quartiers généraux. Ça veut dire de la même manière qu'on peut avoir, par exemple, imaginez que on est dans la ville de Paris, et que dans Paris, il y a deux quartiers généraux de deux gouvernements qui sont en guerre. Il y a un quartier général, je sais pas moi par exemple, rive droite, un autre quartier général, rive gauche. Et il y a deux quartiers généraux, ils se font la guerre. Ça veut dire tant qu'il y aura les deux quartiers généraux, il y aura tout le temps la guerre. Pour que la guerre s'arrête, il faut qu'il y en ait un qui perde, il faut qu'on supprime, qu'on éradique un quartier général. Tant qu'il y aura les deux quartiers généraux, la guerre continuera. C'est pour ça qu'on a expliqué la semaine dernière que quand il y a une guerre entre deux pays, c'est quoi l'endroit stratégique qu'on essaie d'attaquer en premier, c'est quoi ? C'est le quartier général. Quand on a fait tomber le quartier général, c'est fini. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus rien, c'est mort. Donc la même chose. L'âme divine, son quartier général, c'est le cerveau. L'âme animale, son quartier général, c'est le cœur. Et il y a une guerre qui sera constante, parce que les quartiers généraux sont toujours là. Donc, l'âme divine et l'âme animale, je vous rassure, on aura tout le temps les mêmes combats. Sauf que, avec le temps, on va apprendre à améliorer les tactiques. On va apprendre à, d'accord, avec le temps, on apprend à ne pas se faire avoir, ou moins se faire avoir, en tout cas. Mais je préfère vous dire directement, à part une minorité de 0,0001% de gens dans le monde qui finiront par devenir tzaddiques, on ne deviendra pas tzaddiques et on finira toute notre vie avec les mêmes challenges puisque les deux quartiers généraux sont là. Donc le quartier général du cerveau qui est l'âme divine, le quartier général du cœur qui est l'âme animale. Maintenant, le cours d'aujourd'hui est un cours très important dans lequel on va essayer de comprendre quelle est la teneur du combat qui est entre l'âme divine et l'âme animale. On a compris deux quartiers généraux, bon, une image, pourquoi pas. Mais on va essayer de comprendre maintenant quel est ce combat, c'est quoi ce combat. Alors, sur ça, on a un verset dans Kohelet du roi Salomon, qu'on a juste commencé la semaine dernière, qui répond à la question. Et le roi Salomon, comme d'habitude, il parle toujours d'une manière cryptée. Donc, il nous donne un message, que quand tu le lis, tu peux croire que c'est une histoire, c'est une histoire un peu bête, un peu bébête même, d'accord ? Et quand on va l'étudier avec la Gemara, c'est là qu'on va comprendre qu'il y a un message très puissant derrière. Et donc, vous allez voir le message que va nous donner le roi Salomon, sa manière d'imaginer le combat qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Et vous allez voir qu'il n'y a pas plus actuel que ça, et que vraiment on va se retrouver à 100% dans ce qu'il nous raconte. Que vraiment, voilà, il y a des moments dans la journée où on est à fond dans la Torah, des moments dans la journée où on est à fond ailleurs, et on se demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et vous allez voir que ce machal, cette image que le roi Salomon va nous donner, ça va illustrer parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Alors on y va. Ar inectiv. Donc ceux qui ont le Tania version originale, ce que le Tania en VO, c'est page 26, dernière ligne de la page. Et sinon, pour le Tania traduit, le Tania sous-titré, d'accord, c'est page 133. Ar inactive. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
En bas, d'accord.
Ar inactive, en bas.
C'est pas le 26. Le 26 dans le petit rouge.
Petit rouge, page 26.
133.
Voilà, ah, page 26.
Ar
inactive. Vérité, pour comprendre le combat qu'il y a à l'intérieur, pour comprendre le combat qui se passe au fond de nous, il faut comprendre que c'est écrit « Oul homme, mille homme, yémax ». En vérité, la clé de la réponse se trouve dans un verset qui nous a l'air anodin, mais dans lequel, dans ces trois mots, se cache toute l'histoire d'Israël, se cache l'histoire de chaque juif jusqu'à la fin des temps. Trois mots. C'est quoi ces trois mots ?« Oul homme, mille homme, yémax ». C'est écrit, comme on a raconté la semaine dernière, lorsque Rivka était enceinte, elle avait deux enfants dans son ventre, mais elle ne savait pas encore qu'elle avait deux enfants. Et elle sentait une fois s'attirer d'un côté, quand elle passait à côté d'une yeshiva, s'attirer d'un côté, quand elle passait à côté d'une maison d'idolâtrie, s'attirer d'un autre côté. Des contractions pour les bébés, ils voulaient sortir. Donc elle est partie voir la yeshiva de Shem et Ever, donc elle est partie voir le Rav de l'époque, qui était Shem et Ever. Elle lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, c'est pas un bébé que tu as dans le ventre, mais c'est deux bébés. Et deux bébés, ils vont donner naissance à deux enfants. Deux enfants qui vont constamment être opposés l'un avec l'autre. Un, alors, il ne donne pas le nom, mais un s'appellera plus tard Yaakov, l'autre s'appellera Esav. D'accord? Maintenant, ce qu'il lui dit, et c'est ça les trois mots dans lesquels la clé, même de l'histoire du Ham Israël, en général, l'histoire de l'État d'Israël, toute l'histoire d'Israël se trouve dans ces trois mots. Où les hommes, mille hommes, Yéhematz.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fera toujours un effort pour être plus fort que l'autre. Et donc, quand un sera plus fort, l'autre sera moins fort. Quand l'autre deviendra plus fort, l'autre sera moins fort. Comme une balance. Tu pousses d'un côté, ça passe d'un autre. Tu pousses d'un côté, ça passe d'un autre.
C'est toujours
ça veut dire quoi?
Une association.
Ça veut dire qu'il n'y aura jamais une situation dans laquelle les deux ils seront au même niveau. Du style, nous les juifs on garde Israël, eux ils gardent, je sais pas moi, ils gardent les États-Unis. Et laissez-nous tranquilles, qu'est-ce que vous nous prenez la tête maintenant? Qu'est-ce que vous nous prenez la tête? Faut pas nous laisser un petit pays. On peut pas nous laisser un petit pays, une petite parcelle de terre. Donc je vais me prendre la tête, à me casser les pieds. Prenez, il y a le monde entier, le monde est énorme. D'accord? Non, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que la clé de la réponse se trouve dans ces trois mots, où les hommes, mille hommes, yématz. Rachid, le commentateur de Rachid là-bas, il dit clairement, il dit, quand un sera en haut, l'autre sera en bas. Quand l'autre sera en haut, le premier sera en bas. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Maintenant, quel rapport avec nous? Alors, il y a un commentaire qui s'appelle le Shnei Luchot Habrit. Shnei Luchot Habrit, c'est un grand maître qui est enterré pas loin de, juste à côté dans le cimetière de Maïmonide. Vous savez, dans le cimetière, à Tibériade, là-bas, dans le cimetière où se trouve Maïmonide, il y a, en bas de, il y a plusieurs tombes, et en bas des tombes, il y a une des tombes qui s'appelle la tombe du Shnei Luchot Habrit, qui s'appelait Rabbi Yeshaya Horvitz. Il a vécu il y a 500 ans. Et lui, il a expliqué comme ça. Il a expliqué en vérité, dans ces trois mots où les hommes, mille hommes, yématz, se cachent non seulement l'histoire d'Israël en général, et on l'a vu clairement. Que quand Israël était en haut, les autres étaient en bas. Après, hop, et on voit clairement qu'il y a comme un yo-yo. Mais il dit en vérité, ce passouk-là explique aussi l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de chacun des Juifs. Qu'à l'intérieur de chacun des Juifs, il y a un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Tov, un bon penchant, qui correspond à Yaakov. Et il y a un mauvais penchant, qui nous pousse à faire des bêtises, qui correspond à Esav. Il nous dit maintenant, le Shnei Luchot Habrit, il dit, la même idée qu'on a expliquée par rapport à Israël et les nations, qu'il n'y a rien à faire, quand un sera en haut, l'autre sera en bas, et vice versa. De la même manière, il explique, c'est exactement la même chose par rapport au bon penchant et au mauvais penchant. Il y a des périodes dans la vie dans lesquelles le bon penchant est en haut, c'est lui qui mène, d'accord? Et des fois, ça peut durer des mois, dans lesquelles c'est lui qui gère, dans lesquelles, Baruch HaShem, on avance, on se lève le matin, on va à la synagogue, ta 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 ta, carré, pas de bêtises, droit. C'est-à-dire des moments dans lesquels on est en haut. Et après tout, d'un coup, pchik, ça retombe, et c'est Yetzer Hara qui prend le dessus, et bien sûr, on continue à faire les misotes par-ci par-là, on fait le Shabbat, etc. Mais on sent qu'on ne maîtrise plus la situation. Maintenant, ce qui peut arriver, là, je vous ai fait une histoire en quelques mois, mais ça peut se passer dans la même journée. Dans la même journée, tu peux avoir, le matin, tu commences comme ça, après, hop, après ça passe de l'autre côté, après ça repasse de l'autre côté, un yo-yo. Vraiment comme Israël et les nations. D'accord? Des fois, on a l'impression qu'ils sont avec nous, des fois, ils sont contre nous, et ça s'arrêtera jamais. De la même manière que entre Israël et les nations, ça s'arrêtera jamais, tant que Mashiach n'est pas là. De la même manière, à l'intérieur de nous, le yo-yo qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, je veux faire du bien, je veux faire des bêtises, je veux faire du bien, je veux faire des bêtises, c'est un yo-yo qui ne s'arrêtera jamais. Maintenant, on va essayer de comprendre la teneur de ce combat. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce combat? Ça, c'est les trois mots sont là. Tout est inscrit dans ces trois mots.
Ça non. Pourquoi on va se casser la tête à le combat?
Bonne question.
De toute façon, on pousse et ça retourne de l'autre côté.
C'est une bonne question parce que tu as posé la même question la semaine dernière. Parce que je t'expliquais. Toi, tu expliques ta manière de voir les choses maintenant, c'est que le combat, hein, c'est pour faire du chiffre.
Non.
Pour gagner.
Non, c'est enfoncer le coup.
Le combat n'est pas là pour gagner. On n'est pas là pour se battre. Le fait que tu te bats, c'est déjà quelque chose. Tu comprends? C'est comme dans un ring. La victoire, c'est pour célébrer qu'on a bien joué. Mais en vérité, le but, c'est de jouer. Tu comprends? Donc finalement, toute notre vie, on joue.
On s'en fout d'arriver dernier.
De toute façon, on n'arrivera pas à 100%. Mais ce qui est intéressant dans le cours qu'on va faire aujourd'hui, deux choses. Numéro un, d'abord, il va expliquer le combat qui est à l'intérieur. Il va expliquer ce combat, comment ça se passe concrètement. Et là, on va amener justement la fameuse parabole du roi Salomon. Très belle parabole. Et après, quand on va expliquer le combat qui est à l'intérieur, il va nous expliquer qu'est-ce que l'âme divine attend de nous, et de là on va comprendre qu'est-ce que l'âme animale attend de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va nous expliquer comment l'âme divine aurait aimé qu'on soit. Donc il va nous dresser le topo d'un juif ultra religieux. Je sais même pas si un juif comme ça existe. Pour nous montrer comment l'âme divine aurait aimé qu'on soit. Après, l'âme animale, comment elle aurait aimé qu'on soit, il l'expliquera pas tellement parce que ça, je pense qu'on se connaît tous. Et donc avec ça, on comprend qu'il y a un combat, il y a un combat intérieur qui est très clair. Et que chacun, il veut tout gérer. Il veut qu'on soit au top du top. Il n'y a pas de concession. D'accord? Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails. Alors, qui a gouf? Donc, retenez ces trois mots. Ou les hommes, mille hommes, yé ematz. Ça veut dire, l'un sera toujours plus fort que l'autre. Comme il dit Rashi là-bas, il dit, keshe zekam, zenofel. Ou keshe zenofel, zekam. D'accord? Donc, on va faire un peu de mots en hébreu. Quand un se lève, l'autre tombe. Quand l'autre se lève, le premier tombe. Et c'est comme ça. Ça sera toujours comme ça, ça s'arrêtera jamais. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ki haguf nikra irktana. Dans ce fameux exemple du roi Salomon, le corps, donc on est à la page 133, en bas de la page. Vous avez?
Oui.
Ki haguf nikra irktana. Car le corps est appelé une petite ville. Alors, l'exemple qu'on avait dit la semaine dernière, c'était quoi? C'était, le roi Salomon raconte une histoire. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous raconter, parce que dans chacun des détails de cette histoire, on va l'expliquer après à quoi ça correspond. Il dit comme ça. Il dit, il y avait une petite ville, dans laquelle il y avait peu de personnes. Petite ville. Et il y a un grand roi qui est venu. Et ce roi a trouvé dans cette ville un homme intelligent. Et ils se sont battus. D'accord? Et le roi Salomon, il dit, il y avait un combat constant entre d'un côté le roi qui était grand, qui avait une force de frappe énorme, et d'un autre côté, le petit génie qui était à l'intérieur, le petit David, d'accord, qui était là, qui faisait des petits coups par-ci, des petits coups par-là, et le roi, ça le rendait fou. Mais d'un autre côté, comme le roi a une grosse force de frappe, donc, il envoie l'artillerie lourde. Et donc, c'était une guerre qui s'arrêtait pas. Ça, c'est l'exemple que donne le roi Salomon. Maintenant, le roi Salomon, comme d'habitude, dans Kohelet, dans l'Exilice, il explique pas quelle est l'image. L'image, il laisse libre cours à notre imagination. Seulement, nous, bon, on comprend pas trop ce qu'il a voulu raconter. Donc, il y a une Gemara, dans le traité Nedarim, qui s'arrête sur ça. Et qui explique de quoi ça parle. Il dit en vérité, la Gemara a dit, c'est quoi la petite ville? La petite ville, c'est le corps. D'accord? C'est quoi les gens? C'est quoi les habitants de cette ville? C'est les membres de notre corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand roi qui est venu. C'est qui ce grand roi? C'est le Yitzhara. Pourquoi on l'appelle grand? Parce qu'il est imposant. Parce qu'il est très imposant. Vous comprenez que les plaisirs de ce monde sont beaucoup plus imposants et sont beaucoup plus attirants que là, ce qui est écrit dans les livres.
Mais on le valorise en disant grand roi.
C'est la réalité. Il est grand, il est là, il est omniprésent.
Puis il est là pour faire d'accord le mal et on le...
Alors attendez. Donc, on a dit, il y a une petite ville. C'est quoi la petite ville? C'est le microcosme, c'est l'homme. D'accord? Dans cette ville, il y a des hommes. À quoi ça correspond les hommes? Aux membres. Et les membres de notre corps. La main, les pieds, les têtes, ça veut dire tous les membres de notre corps par lesquels on communique. Il est venu un grand roi. C'est qui le grand roi, dit la Gemara? C'est le Yetzera. Et qu'est-ce qu'a voulu faire le grand roi? Il a voulu prendre le contrôle de la ville et des habitants de la ville. En d'autres termes, quel est le but du Yetzera? Il veut prendre le contrôle du corps et des membres. Il veut qu'avec mes mains, je vais faire des avérotes. Avec mes pieds, je vais faire des avérotes. Je vais aller pour faire des avérotes. Avec ma tête, je vais réfléchir à des avérotes. Avec ma bouche, je vais dire des avérotes. Ça, c'est le grand roi. D'accord? D'un autre côté, on fera des pauses pour les questions. D'un autre côté, on a le Chacham. C'est qui le Chacham?
Allô.
Après les questions. C'est qui le Chacham? Le Chacham, c'est le bon penchant. Le bon penchant, c'est l'âme divine. Lui, il est petit, il n'a pas la même force de frappe. Mais par contre, il a un avantage, c'est qu'il est intelligent. C'est comme les Israéliens, vous voyez? C'est-à-dire, on a peut-être un désavantage, c'est qu'on est peu nombreux, mais on a un avantage par rapport aux autres, d'accord? C'est qu'on est plus intelligent que les autres. Et donc, c'est un combat constant. Mais c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais parce que les autres ont une force de frappe plus grande que nous. Ils ont plus d'argent, ils ont plus de moyens, ils sont plus nombreux. Mais d'un autre côté, nous, on est plus intelligents. Exactement la même chose. Même mâche, la même chose que ce qu'on peut voir entre Israël. La même chose. Donc, c'est la même chose entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov.
C'est un bon exemple. On n'a pas un bon exemple. On a une Seta d'Ishmaïa plus importante.
Prends-moi un exemple.
Tu parles des Israéliens.
Les Israéliens sont plus intelligents.
Non.
Dieu nous aide concrètement, mais
c'est ça, voilà.
Évidemment. Mais on est plus, on est plus intelligents.
D'accord.
Regardez le taux de prix Nobel, d'accord. Bien sûr qu'il y a des Kadosh Baruch Hu, mais concrètement, donc on est chacham. Exactement la même chose. Dieu, ce qui nous a donné, l'atout que Kadosh Baruch Hu nous a donné,
c'est évident.
C'est évident. Excuse-moi, c'est une évidence, hein. À 1000%. Mais bon, je rentre pas dedans. Évidemment que c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est une évidence qu'on est plus intelligent que les autres. Et que c'est ça ce qui fait notre supériorité. Parce qu'on est minoritaire, on a moins d'argent que les autres, on est moins nombreux que les autres. Donc théoriquement, avec les millions d'Arabes qui sont autour de nous, on n'a aucune chance de tenir. Aucune. D'accord? Aucune minute. Donc Dieu nous aide. Qu'est-ce qu'il nous a donné l'Akadosh Baruch Hu? Il nous a donné la Chorma. Avec cette Chorma, Baruch Hashem, on arrive à faire des belles choses. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Alors, nous dit maintenant le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc il y a toujours ce combat dans cette ville entre, donc c'est quoi la ville? La ville, c'est le corps. Les membres, c'est les hommes. Et le grand roi est venu, qu'est-ce qu'il veut? Le grand roi, il veut prendre le contrôle. Donc le Yetzer Hara, il veut prendre le contrôle du corps. Pour que le corps fasse des bêtises. Et il y a un petit Chacham qui est l'âme divine. Qui essaye par-ci par-là de te rappeler que tu es juif. Qui essaye par-ci par-là de te mettre des petits coups, de te faire travailler ta conscience pour dire ça se fait pas ce que tu as fait. Comme ça, tac, il te pique comme ça. Maintenant, le Chacham, son rôle, c'est quoi? Il a pas une force de frappe qui est grande. Il n'est pas imposant comme l'autre. Parce que bon, dès qu'il se présente, il dit, oh, toi encore, tu vas me prendre la tête avec tes histoires. D'accord? Mais il a une force, c'est qu'il sait se pointer au bon moment. Donc c'est une force. C'est une force qu'il a. Maintenant, la guerre est constante, parce que ça s'arrêtera jamais. Un, il a l'avantage d'être plus intelligent. L'autre, donc d'être plus intelligent, plus vif, il fait des petits coups. L'autre, il a l'avantage d'être plus présent, plus imposant. Et ben ça, c'est exactement l'histoire du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il explique ici à Admor HaZaken, il dit, on va reprendre l'exemple des deux rois. Un roi, qu'est-ce qu'il veut? Un roi, et c'est pour ça qu'on prend l'exemple des rois. Je sais qu'aujourd'hui, on n'aime pas trop l'image des rois, parce que dès qu'on imagine les rois, c'est les dictatures, etc. Mais il faut essayer de se remettre dans l'idée, qu'est-ce que c'est un roi? Un roi, c'est une personne qui veut le contrôle total. Il ne sait pas ce que c'est la concession. La concession chez un roi n'existe pas. Ça veut dire que même s'il a tout le pays, mais il lui manque une rue dans laquelle il ne maîtrise pas, il se rendra fou pour avoir même cette rue. Il veut le contrôle total de chez Total.
Sauf quand il est battu.
Plus que ça. Ah, il est battu. Ouais. Sauf, plus que ça. Même si il a le contrôle, mais qu'il sent, et ça malheureusement on l'a vu clairement chez les dictateurs, même s'il a le contrôle, mais qu'il sent que les sujets ne sont pas assez, on va dire, annulés, ne sont pas assez soumis à lui, parce qu'il va employer le terme annulé plus tard, eh ben, le roi ne lâchera pas, il continuera, il va aller tuer des gens, il va aller faire des catastrophes jusqu'à ce qu'il sente que le peuple soit soumis à lui. Et ça, on l'a vu clairement dans l'histoire. Des fois, des gens, à l'époque, ils faisaient rien. Mais comme le roi sentait qu'il n'était pas assez soumis, le roi veut le contrôle total. C'est comme ça. Et ben, c'est la même chose le Yetzer Hara. On aurait pu dire, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne peut pas imaginer une situation dans laquelle le Yetzer Tov a son domaine, le Yetzer Hara a son domaine? Oh, on aurait pu imaginer une situation comme ça. Le Yetzer Tov, il dit, écoute, moi, tu me laisses le samedi. Et le Yetzer Hara, il dit, moi, tu me laisses la semaine, par exemple. Non, ça marche pas comme ça. D'accord? Pourquoi ça marche pas comme ça? Parce que, et le Yetzer Tov, et le Yetzer Hara, les deux, chacun veut le contrôle complet. Le Yetzer Tov veut que je sois un juif ultra religieux toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le Yetzer Hara veut que je sois un rachat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme les rois, chacun veut le contrôle complet. Voilà pourquoi on amène l'image du roi. Parce que quand c'est des présidents, quand c'est des responsables, on peut discuter. À un moment, quand on comprend le bonhomme, ça fait 40 ans que tu fais le même combat. À un moment, tu comprends, tu dis, bon, écoute, toi tu prends cette rue, moi je prends cette rue, et shalom à l'Israël. Ça c'est quand c'est des présidents. Mais quand c'est un roi, le roi il veut rien savoir. Et la Gemara dit même qu'un roi quand il veut gagner, il est capable même de gaspiller ses trésors, les trésors royaux qui sont énormes. Il est capable de payer, dès qu'on lui dit une nouvelle arme qui est sortie, bah, il paye. Mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? T'as une rue qui t'appartient. Non, je veux tout. Un roi il veut le contrôle. C'est comme ça. Et ben, c'est la même chose le Yetzer Hara. Et le Yetzer Tov aussi. Les deux veulent le contrôle complet du corps. Ça veut dire, il veut le contrôle de tous les hommes. Donc ça veut dire, c'est quoi tous les hommes? C'est-à-dire tous les membres. La tête, les mains, les pieds, le cœur, tout. Chacun veut le contrôle complet. Tu vas expliquer. De la même manière que deux rois, Nilchamim Ali Rachat, reprenons l'exemple du roi, de la même manière que deux rois vont se battre sur la même ville, vous avez dans les mots? Alors, page 134.
Ouais.
Voilà. Non, je suis en bas de la page 133. Comment, donc il dit, donc dans les mots, juste en bas de la page. Shekol echad rotze le chofshav et l'imloch aléa. Que chacun des deux rois veut conquérir la ville et veut régner sur la ville. Daïnou, ça veut dire, c'est pas juste conquérir Stam et dire bon, je suis moi le patron. Non! Il veut dire c'est le patron et sentir que les gens l'écoutent. Ça, c'est un roi. Daïnou, ça veut dire la nigue je vais à Kersona. Il suffit de voir l'actualité. D'accord? Quand on voit les dictateurs, parce qu'eux, ils ont mal utilisé ça. Quand on voit les dictateurs, des fois, les pauvres, ils ont rien fait. Et quand il y a à peine une petite révolte, des gens qui commencent à dire on n'est pas d'accord, bah, ils se mettent à tuer et à tuer tout le monde. Pourquoi? Parce que ça, c'est un roi. Ça, c'est un dictateur. Dictateur, tant que je sais pas que tout le monde est assujetti, tout le monde est annulé, tout le monde est soumis à moi, il va tuer. Il fera tout ce qu'il faut pour ça. C'est mauvais. Ils l'ont mal utilisé. Mais ça, c'est la nature d'un roi.
Il faut quand même au service d'un seul et même roi qui a Kadosh Baruch
Hu. Bien sûr, évidemment, ça on parlera plus tard. Ça je rentre pas dedans. Là je vais expliquer le combat intérieur déjà. Donc d'un côté, on a.
Tu crois que c'est les meilleurs.
Qui quoi, hein?
Les rois, il y a rien.
Ah oui.
Ah oui, bien sûr.
Il y a rien au-dessus de lui.
Bien sûr. C'est pas que.
C'est un roi. Un roi, ce qu'il veut, c'est le pouvoir.
Oui, ça.
La chose la plus forte chez un roi, c'est le pouvoir. Il veut le pouvoir, sentir qu'il maîtrise. Et pas seulement maîtriser concrètement, mais sentir que le peuple est soumis. Donc la même chose. Qu'est-ce que veut le roi qui s'appelle le Yetzerara? Ce qu'il veut, non seulement maîtriser le corps, en plus, il veut que le corps soit soumis à 100%. Donc dans les mots. Vesheyu sarim le mishmaato bechol asher gzor alehem. Qu'est-ce que veut le roi? Le roi veut que les sujets vont suivre sa discipline dans tout ce qu'il leur dira. Ça veut dire, il dit, je suis le roi, je vous demande de sauter, vous devez sauter. Oui, mais on va tomber. Je veux rien savoir. Le roi, il dit, j'ai dit, il faudra le faire. Comme d'ailleurs la Gemara, elle donne une image sur ça. Elle dit, pour expliquer ce que c'est un... On a du mal, honnêtement, on a du mal à comprendre ce que c'est un roi aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que c'est un roi. On n'est pas né dans des pays comme ça. Peut-être les Marocains, ils savent ce que c'est un roi. Mais alors, nous, on ne sait pas ce que c'est un roi. La Gemara, pour illustrer ça, qu'est-ce qu'elle dit? D'accord? C'est quoi un roi? La Gemara, elle dit, le roi a demandé, on déracinera la montagne. Ça veut dire, si le roi a dit, il y a une montagne, elle me dérange, les sujets disent, eh ben, on déracinera la montagne. Et ils le feront. Ça, c'est le roi. Nous, on a du mal à comprendre. Comme nous, on dit, attends, c'est nous. Pourquoi on a du mal à comprendre? Parce que nous, on vit en démocratie aujourd'hui. Qui c'est qui nomme le président? C'est le peuple, c'est nous. Donc, le jour où le peuple n'est pas content du président, qu'est-ce que fait le peuple? Il fait sauter le président. Parce qu'en vérité, le président est un représentant du peuple. Mais un roi, c'est pas ça. Un roi, c'est le maître du peuple, c'est lui qui gère le peuple.
C'est de père en fils en plus, le roi.
Et de père en fils. De manière vraiment, c'est une dictature.
Oui, c'est lui qui d'accord. C'est lui que c'est lui.
De manière arbitraire, ou... d'accord. Dictaturale, comme ça on dit. Je vais éviter à me
confier. Oui, c'est ça.
D'accord. Hein? Dicta?
Dictatorial.
Ah, dictatorial, d'accord. Ok. Donc, il dit maintenant, car il en est de même. Alors nous, on n'est pas là pour parler des rois. On n'est pas là pour parler de la Syrie ou de je ne sais quoi. On est là pour parler maintenant de notre corps. On est d'accord, Serge?
Oui.
Alors. Dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de la même manière, dans notre corps, il y a deux entités. Chacune veut régner. Shtein et Fashot, les deux âmes. Une qui est comparée à Yaakov, l'autre qui est comparée à Esav. L'âme divine et l'âme animale. Aelokit, ve'achriunut, abemut, shima, klipa. D'un côté, l'âme divine, et d'un autre côté, l'âme qui nous fait vivre. D'accord? L'âme animale, c'est-à-dire qui nous fait, ça veut dire qui est pas forcément mauvaise, hein, mais qui ça veut dire qui amène tout le côté animal qui est en nous. Manger, dormir, boire, le plaisir, etc. Nilchamot, zo, imzo. Elles sont en guerre l'une contre l'autre. À la gouffe, école et brave. Elles sont en guerre sur le corps et tous les membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Shea Elokit, l'âme divine, Revtsa Urtsona, quelle est sa volonté, quel est son désir? Shete, hi, levada, amoshe, let, alav, manigato. Qu'est-ce que veut l'âme divine? L'âme divine veut être la seule, donc le seul maître à bord. C'est moi qui domine. Je veux que les pensées sont des pensées cachères, les paroles cachères, les actions cachères, le pied, il va pour les choses cachères, tout cachère. Ça, c'est l'âme divine. Et dès qu'il y a un truc qui est mal, je suis pas d'accord. Ça, c'est l'âme divine. Voilà comment l'âme divine s'imagine. Oufteli, Metzel et Gamri. Alors, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important les détails de l'exemple. Le roi ne veut pas seulement que concrètement les sujets sont soumis à lui. D'accord? Il veut que c'est pas seulement dans la pratique, mais même dans leur tête, il veut que les sujets soient soumis à lui. Comme on a expliqué tout à l'heure. Que même si dans la pratique, les sujets sont soumis au roi, mais que le roi sent que dans leur tête, ils sont pas d'accord, le roi ira tuer, il ira faire n'importe quoi parce qu'il veut que dans leur tête, les sujets soient soumis. C'est malheureusement comme ça. Et ben, la même chose. Qu'est-ce que veut l'âme divine? L'âme divine, elle veut que le corps entier, non seulement que concrètement il fasse des mitzvot, mais que le corps entier, il soit soumis profondément à Kadosh Baruch Hu. Que ma main, dès qu'elle bouge, hop, elle veut faire une mitzvah. Mon cerveau, dès qu'il veut réfléchir, hop, il veut faire une mitzvah. Évidemment, ça n'arrivera jamais. D'accord? Pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que de l'autre côté, il y a le grand roi, qui est très imposant lui aussi, et qui fait que c'est une guerre. Imaginez qu'on va expliquer plus tard, que chez l'âme, chez un tzaddik qui a supprimé, le tzaddik peut supprimer son yetzera, comme on va expliquer plus tard. Ça, c'est ça, il faudra attendre. Oui, il peut le supprimer, oui.
On a toujours dit qu'il ne pouvait pas disparaître.
On va en parler, justement. Il peut pas disparaître pour la majorité des gens. Mais pour une très très faible minorité de gens, ils peuvent enlever leur yetzera.
Et
définitivement.
Mais alors, s'il n'a plus le yetzera, il n'a aucun mérite alors, dans ce qu'il fait.
C'est autre chose, c'est un autre mérite.
Il a un autre boulot.
C'est chacun son boulot. Nous, notre boulot, c'est de se battre. Lui, son boulot, ça va être de faire du chiffre.
Même nous, heureusement qu'on a le etc. Là, même nous, c'est bien. Heureusement qu'il y a.
Vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai que c'est notre challenge. Ok, alors. Donc, dans les mots. On va lire encore. Rabotaille. On va lire encore quelques lignes et après on fait une pause question. Donc, Shai Elokit, l'âme divine, Chev Tsaour Tsona, je reprends, sa volonté c'est quoi et son désir. Shete Hi Levada Moshe Latala Vumanigato. Elle veut être la seule à dominer le corps, à le diriger. Vechol Alvarim Yusarim le Mishmaata. Elle veut que tous les membres suivent sa discipline. Uftelim et Tsel et Gabré. Pas seulement ça qu'on a expliqué. Elle veut que tous les membres soient entièrement soumis à elle. Que tous les membres, dès que la main bouge, hop, pour faire une mitzvah. Le cerveau réfléchit, hop, pour faire une mitzvah. La bouche s'ouvre, hop, c'est pour dire une bonne parole. Ça, c'est ce que l'âme divine voudrait. Ce qui n'arrivera pas, bien sûr. D'accord? Ou Merkava, elle n'a pas seulement ça. Alors attendez, j'ai même pas fini. Plus que ça, qu'est-ce que s'imagine l'âme divine? L'âme divine, elle aurait voulu que, non seulement que les membres sont soumis, mais ils sont carrément, tellement ils sont soumis que c'est comme un char. C'est quoi un char? Alors, je vais donner l'exemple, pour simplifier les choses, je vais donner l'exemple d'une voiture. Quand je prends la voiture, d'accord? Je tourne le volant pour tourner à droite. Est-ce que le volant se pose la question, Men Diasouline a tourné le volant à droite, est-ce que je vais tourner à droite ou pas?
Non,
il réfléchit pas. D'accord, très bien. Très bien. Quoi?
C'est mieux que non.
Mieux que non. D'accord. Donc ça veut dire, c'est pas, quand quelqu'un me donne, quand par exemple le cerveau, non, mais c'est important ce que je viens de vous dire. Quand le cerveau, par exemple, j'ai bougé ma main là, vous voyez, j'ai ma main à bouger. Pourquoi ma main a bougé? Parce que mon cerveau vient d'envoyer un ordre à ma main. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque membre a une sorte d'intelligence. Ça veut dire qu'il il peut décider de ne pas accepter ce que le cerveau lui demande. C'est ce qui arrive malheureusement quand il y a une paralysie. Ça veut dire qu'il y a un membre qui refuse d'écouter ce que le cerveau dit. Des fois, le problème, il est dans le cerveau, qu'il n'arrive plus à envoyer des ordres. Des fois, le problème, il est dans le membre, que le membre n'arrive plus à recevoir les ordres. Il bloque. Ça peut arriver malheureusement.
Mais c'est pas l'intelligence qui fait ça, c'est le fait qu'il y a un
problème. C'est une sorte technique. Bon, j'appelle ça une intelligence pour simplifier.
Oui, d'accord.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas comme le volant. Quand mon cerveau envoie un ordre, il y a une sorte de micro-réflexion
connexion.
D'accord? Il y a une connexion dans laquelle la main peut décider de répondre oui, peut décider de répondre non. Et c'est malheureusement ce qui se passe quand il y a une paralysie. D'accord? Donc ça peut venir du cerveau, mais ça peut venir aussi des membres. Des fois, le cerveau, quand les médecins vérifient le cerveau est intact, le cœur est intact, et pourtant la main ne marche pas. Pourquoi? Ben, il y a un problème dans la main. Donc, la main ne répond pas aux ordres de la tête. Pourquoi? Parce que il y a constamment un échange. Ça veut dire qu'il donne l'ordre et l'autre doit décider est-ce que j'accepte ou j'accepte pas. La majorité du temps, mes membres sont soumis, mais ils peuvent décider un jour, chas v'shalom, de ne pas être soumis. Par contre, dans le cas de la voiture, Jackie, hein, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que le volant se pose la question? J'ai tourné le volant. Est-ce que le moteur se pose la question? D'accord, je sais pas comment, c'est ce qui va tourner là-bas. Est-ce qu'on va l'écouter? On va l'écouter. Il n'y a pas de réflexion. T'as tourné, ça tourne. Eh ben, qu'est-ce que voudrait l'âme divine? L'âme divine voudrait, écoutez bien ce que je veux dire. D'accord? Qu'est-ce que voudrait l'âme divine? L'âme divine voudrait, dans l'ordre, elle voudrait la chose suivante. D'abord, elle voudrait maîtriser le corps. Numéro 1. Numéro 2, elle voudrait que le corps soit soumis. Que tout ce qu'elle dit, il écoute. Et numéro 3, elle voudrait que tellement il soit soumis, que le corps soit soumis à elle, comme le char, comme la voiture. Ça veut dire que, elle voudrait que même pas il y a besoin de réfléchir. C'est comme ça que l'âme divine s'imagine. Elle dit, moi je donne un ordre, comment c'est possible? Dieu veut qu'on le fasse et tu le fais pas. Du style, c'est évident qu'il faut le faire. Et ça, on dit que les tzadikim sont à ce niveau-là. Les tzadikim, même pas ils se posent la question. C'est un automatisme. On dit que les patriarches, par exemple, c'était Merkava. Ils étaient comme un char pour un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Dieu demande quelque chose, même pas je me pose la question, est-ce que je dois le faire en sachant que je vais le faire? La question ne se pose même pas. J'ai tourné le volant, la roue a tourné. Voilà comment l'âme divine s'imagine le monde. Elle dit voilà, ce qui compte dans le monde, c'est Dieu. Puisque Dieu fait une mitzvah, comment toi tu vas venir et tu fais pas la mitzvah? C'est-à-dire, elle se pose même pas la question, c'est impossible pour elle de se poser la question. Ça, c'est la manière comment l'âme divine s'imagine les choses. Maintenant, vous imaginez bien que de l'autre côté, il y a une âme animale. Et cette âme animale, c'est exactement le contraire. L'âme animale, au lieu que tout tourne autour de Dieu, tout tourne autour de l'ego, autour de moi. Et donc, elle, l'âme animale va dire, mais attends, elle le dit pas ouvertement, mais c'est ça le message. Qui est ce Dieu pour me dire ce que moi je dois faire? Donc l'âme divine d'un côté qui dit qui tu es pour ne pas écouter ce que Dieu y dit, et d'un autre côté l'âme animale qui dit mais qui c'est celui-là qui va me dire quoi faire. Et vas-y, un il tire d'un côté, l'autre il tire de l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est, vous savez, par exemple, quand on prend la voiture. Imaginez par exemple que la voiture est en train de descendre, on est en pente, d'accord, et que je passe la marche arrière alors qu'elle est en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la boîte à vitesse? J'éclate la boîte à vitesse. Pourquoi? Et la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Elle s'arrête parce qu'elle a une force qui la tire vers le bas, une force qui la tire vers le bas. Ben des fois c'est la même chose en nous. Tu sais plus quoi faire. D'un côté j'ai mon âme divine qui me tire d'un côté, qui me dit fais les mitzvot, sois religieux, viens à la synagogue, viens au cours de Torah, etc. D'un autre côté j'ai mon âme animale qui me tire d'un autre côté. Alors des fois c'est un qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne. Des fois, c'est aucun qui gagne.
Mais normalement,
des fois, la boîte à vitesse, elle casse. Hop, si moi, je suis là.
Si c'est sur la même ligne, les deux forces s'annulent.
Donc, la voiture s'arrête. Voilà. Donc on ne fait rien.
Donc, l'homme animal et l'âme divine, il n'y en a pas une qui prime sur l'autre.
Je vous réponds.
Parce que les forces des deux, elles s'annulent.
Je vais répondre à la question. Il y a un rave en Israël qui est à la vache à l'homme, qui s'appelle le rave Dounin, qui avait dit comme ça. Qui avait dit, la vie, c'est comme un vélo. Écoutez bien, comme un vélo. Dans le vélo, quand tu sens que c'est dur, ça veut dire que tu grimpes. D'accord? Quand ça descend tout seul, c'est que tu descends.
Quand tu ne peux pas, ouais.
Et quand tu t'arrêtes, tu tombes. Alors, spirituellement, c'est la même chose. Quand tu sens que tu sues que c'est difficile, c'est un signal que tu es en train de monter. C'est un bon signe. Quand ça descend tout seul, c'est un signe que tu es en train de descendre. C'est-à-dire quand tu dis oui, ça va, c'est facile, c'est accessible, etc., c'est que tu es en train de descendre. Quand tu t'arrêtes, tu tombes. C'est-à-dire que la seule manière de réussir, c'est d'avancer et de suivre constamment. Il n'y a rien à faire.
Il a copié Mao Tse-Tung.
Quoi?
Il a copié Mao Tse-Tung.
Ouais. Mao Tse-Tung, qui c'est?
Mao Tse-Tung, il a copié.
Mao.
C'est le président chinois. Parce que Mao Tse-Tung, il a dit, il faut pédaler pour que la révolution, elle avance.
Ah!
Mao Tse-Tung qui a copié.
Non.
Il avait lu la Torah.
Il a dit, il faut pédaler. Oui, mais attendez. Pédaler, ça dépend. On peut pédaler en descente.
Enfin,
l'image qu'il a expliqué, c'est que c'est quand on grimpe. Donc, pour revenir à notre histoire, au fond de nous, nous avons deux âmes, et chacune veut le contrôle complet. Il veut que tellement il contrôle que c'est un automatisme. Style, le roi, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Pour reprendre l'exemple du roi, le dictateur, ce qu'il aurait voulu, c'est que même pas les sujets se posent la question est-ce qu'on fait ce que le roi demande ou pas. C'est un automatisme. Le roi, il a dit, on fonce là-bas, il fonce, même pas il se pose la question. Ça, c'est comme ça que le roi s'imagine les sujets. Maintenant, d'un autre côté, le Yitzhara veut exactement le contraire. Veiyu, je continue dans les mots. Veiyu, levush, l'eiser, prinotea, ushlocha, levusha, niskarim, l'el. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué. On avait expliqué dans les chapitres précédents, chapitre 3, chapitre 4, que nous avons 10 forces à l'intérieur de nous. Nous avons 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. D'accord? Chorma, bina, da'at et les 7 midot. Donc c'est les traits de caractère qu'il y a en nous et c'est la réflexion qu'il y a en nous. Nous avons expliqué aussi que nous avons 3 moyens de communication, à savoir, la pensée, la parole et l'action. Donc ça veut dire en tout ça nous fait combien de choses? Ça nous fait 13 choses. 13. Ça veut dire d'abord, on a expliqué Chorma, Bina, Da'at, on va le voir plus tard, réflexion, ensuite développement, ensuite Da'at, ça veut dire je m'attache à la chose. Moi je reviendrai pas dessus, mais je rattache, si vous voulez, après on fera un résumé. Et on avait expliqué qu'il y a 7 traits de caractère et que ces 7 traits de caractère, donc 7 traits de caractère, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc., plus d'un autre côté 3 moyens d'expression. Maintenant, et l'âme divine et l'âme animale, les deux veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler à 100% la pensée, la parole, l'action, la bonté, la rigueur, l'amour, tout. Par exemple, pour faire plus simple, on a dit par exemple qu'en nous, on a une capacité d'aimer. On a dit, c'est par exemple les traits de caractère, il y a une capacité qui s'appelle la capacité d'aimer. L'âme divine a dit, ben, cette capacité d'aimer, on va l'utiliser pour aimer à Kadosh Baruch Hu. L'âme animale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. On va utiliser cette capacité d'aimer pour aimer des bêtises. Pareil, la rigueur, c'est une capacité, la rigueur. Qu'est-ce que dit l'âme divine? Elle dit, ben, on va utiliser la rigueur pour stopper et ne pas faire d'avérot. Qu'est-ce que dit l'âme animale? Elle dit non, on va utiliser cette rigueur, par exemple, pour ne pas donner la tzedaka. C'est une capacité qui est en soi, qu'on peut la développer comme on veut. Et chacun, et l'âme divine et l'âme animale, veut prendre le contrôle du corps et de ses pulsions pour les faire, d'accord, pour faire en sorte qu'elles vont se comporter comme lui veut. En d'autres termes, je voudrais juste résumer, après on fait une pause question. Ça veut dire qu'en vérité, kaviachol, si on peut dire, notre corps est un élément qui est neutre. C'est neutre, c'est comme un verre. J'ai un verre ici, imaginez je prends ce verre, d'accord, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je peux mettre de l'eau, je peux mettre du coca, je peux mettre du poison. Le verre est un verre, c'est un contenant. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Et le verre est neutre. Et c'est ce que moi je vais décider d'en faire. C'est ça, c'est avec ça que faire son utilisation. De la même manière. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé avec des outils. Il nous a donné une trousse à outils. La pensée, la parole, l'action, la capacité d'aimer, la capacité de réfléchir, la capacité de craindre, la capacité des capacités qu'il nous a donné, la capacité de gagner, l'humilité. Il nous a donné des capacités. Maintenant, ces capacités, c'est une trousse à outils. Je peux décider de faire ce que je veux avec. Je peux décider avec mon tournevis de visser. Je peux décider avec mon tournevis de casser. Je fais ce que je veux avec. C'est un outil. C'est exactement la même chose. Donc, Dieu nous a donné notre trousse à outils. Et la guerre constante qu'il y a entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, qui prendra le contrôle du corps pour le maîtriser à sa façon. Donc, c'est une guerre qui ne s'arrêtera jamais entre l'âme divine et l'âme animale. Par exemple, je vous donne un exemple. Je fais ma Amida. Comment faire ma Amida? À un moment, je dis, bon, Baruch Hashem, quelques secondes, d'accord, on va essayer au moins quelques secondes de penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Penser au fait que j'aime Akadosh Baruch Hu. Et là, tout d'un coup, pac, le Tsar m'envoie une pensée dans la tête. Pac! D'accord, pourquoi il m'envoie la pensée maintenant? Parce que le Tsar, il dit, attends, dis-moi, pourquoi tu vas commencer maintenant à aimer Dieu? Non, non, tu vas aimer ce que moi je vais te dire. Et pac, il t'envoie une pensée. Et des fois, il t'envoie des pensées tellement tordues qu'il t'aurait jamais envoyé pendant la journée. Pourquoi il t'envoie maintenant? C'est comme ces deux rois. Quand ils sentent que l'autre a pris de l'ampleur et qu'il commence à aimer Akadosh Baruch Hu, hop, maintenant moi aussi je vais te mettre, c'est moi que tu vas aimer maintenant, si tu vas aimer, tu vas aimer les bêtises. Donc c'est une guerre constante qui s'arrêtera jamais. Et justement, quand un va sentir qu'il avance, l'autre tout de suite va se reprendre. Et c'est exactement comme dans un combat de boxe. D'accord? Ça veut dire, tu peux avoir un moment dans lequel les deux ils sont calmes, et quand un va intensifier, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va intensifier. Quand un se calme, l'autre se calme. Et c'est comme ça.
Mais normalement, c'est la divine qui devrait toujours l'emporter.
Dan. Eh ben non.
Puisque c'est elle qui commande, c'est elle qui dirige, c'est elle qui,
l'âme divine,
qui donne les impulsions.
L'âme, non, c'est l'erreur. C'est qu'on a expliqué la semaine dernière que nous avons un moteur, qui se rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière, un moteur hybride. Voilà.
Essence, essence.
D'accord. Électrique. On a un moteur hybride en nous. L'âme divine et l'âme animale. Et c'est mon libre arbitre, c'est de décider à chaque fois quel moteur j'utilise, l'âme divine ou l'âme animale. Le bon penchant, le mauvais penchant. Mais il y a les deux. Et ça s'arrêtera jamais. Et c'est là l'image qu'on a expliquée tout à l'heure, que le Yetzer Hara est comparé à ce roi qui est grand, et alors que l'âme divine est comparée à ce petit roi mais qui est intelligent. Et donc, ça s'arrêtera jamais. Les deux sont toujours là. Un, il est plus imposant, l'autre, il est plus intelligent. Ça s'arrêtera jamais. C'est toujours là. On va développer encore. Maintenant, on fait une petite pause question. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Plus de questions?
Non.
D'accord.
Tout à l'heure,
Est-ce
qu'il y a une zone franche?
Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de neutre. C'est binaire. Ça n'existe pas, la zone franche.
Alors, si tu dis que.
Et juste, je vais répondre à la question de seconde. Même quand on croit qu'il y a une zone franche, c'est comme entre deux ennemis. Des fois, il y a une trêve, mais en vérité, qu'est-ce qu'on fait pendant la trêve?
On se prépare
pour mieux se battre après. Voilà. C'est la même chose. Des fois, tu crois le Yetzer Hara, il te laisse tranquille et tout. T'inquiète pas, il te prépare des petites, une petite information par-ci, une petite image par-ci, une petite parole par-ci. Tac, il te prépare. Et tout d'un coup, pac, il te met un truc dans la tête, t'as pas compris d'où il est tombé. En vérité, il a préparé depuis longtemps son truc.
Mais enfin, ce sont les tentations.
Il s'arrête jamais.
Mais ce sont les tentations qu'on voit tous les jours et tout ça. C'est très difficile de lutter contre ça.
Mais heureusement que c'est très difficile. Mais je vous rassure, ça s'arrêtera jamais.
Non. C'est un truc sans fin, hein, ça.
Sans fin, ça n'arrêtera jamais. Mais le combat est un but. Le fait même de combattre est déjà un but. Mais ça, on expliquera plus tard. Pourquoi Dieu aime nous voir se battre alors qu'on sait qu'on ne va pas gagner? En tout cas, on ne gagnera pas à 100%. Ça, on expliquera plus tard. Autre question, allez-y.
Si tu as dit que le tzadik, il peut supprimer effectivement son Yetzer Hara. Et donc, il a une autre. D'accord.
Alors, le tzadik, excusez-moi de vous interrompre. D'accord. Le tzadik, c'est chapitre 10.
Nous, maintenant, on fait tout pour s'approcher le mieux, en plus en plus, etc., pour faire de plus en plus de choses, etc. Bon, maintenant, quand il y aura le tzadik, on va tendre de plus en plus vers un comportement logique et supprimer progressivement et après progressivement le tzadik, et il sera toujours présent.
On va être supprimé.
Oui. Donc uniquement quand il y aura le
chien, on
pourra être tous
sur le niveau. Oui, exactement. D'accord. Voilà. Autre question?
Si. Non.
100%. Mais on ne développera pas ça dans la suite. C'est vraiment, il y a un chapitre qui est dédié pour ça, c'est le chapitre suivant. Le chapitre 10, c'est le chapitre qui explique ce qu'un tzadik. Attention, parce qu'après il y aura le chapitre du rachat.
Ah.
Et vous verrez que en général, on est plutôt dans la catégorie des bons rachats.
Ah, des bons, carrément.
Bon, j'avais un preview.
Non,
bon rachat, ça veut dire, bon, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. On fait une petite pause des Chaïm. Allez.
Un rachat qui a des remords. Le Yetzer Hara, Mendy.
Oui.
Il grandit avec l'âme.
Ah oui, 100%.
Mais plus tu es grand, plus ton état va
être. Oui, bien sûr.
Oui. Et plus tu vas chercher des moyens de l'éviter, plus lui va trouver des moyens pour te faire tomber.
Bien sûr.
Exactement. C'est ça qu'on dit que la gadol.
Ça s'arrêtera jamais. Quand tu grandis, il est toujours avec toi. Vous savez, il y a le temps que David dit les Chaïm, il y avait. D'accord. Il y avait une fameuse histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Une fois Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il s'apprêtait à commencer les Hakafot, les Hakafot de Simchat Torah. Et tout d'un coup, on le voit perdu dans ses pensées. Des fois, il rentre dans une extase comme ça. Et il commence à dire, oui, mais moi aussi j'étais là. Bon. Le Torah répond, non, mais j'étais là à cet endroit. Non. Le Torah répond, oui, mais moi aussi j'étais là. Et l'autre répond, non, mais moi aussi j'étais là. Et comme ça, les chassidim, ils entendent le rabbi qui arrête pas de dire, moi j'étais là, moi j'étais là, moi j'étais là. Ils ont rien compris. Mais ils osaient pas, c'est le rabbi. Bon. Alors, entre temps, ça a duré comme ça quelques minutes, ce petit jeu. Et au bout de quelques minutes, à la fin, le rabbi, il dit, là-bas, t'étais pas. Et il dit, c'est bon. Après, il se tourne vers les chassidim, il dit, c'est bon, on peut commencer la kafote. Alors, les chassidim, ils ont rien dit. Mais après que la kafote soit terminée, ils ont dit, rabbi, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors le rabbi leur a dit comme ça. Il leur a dit, quand j'ai pris le Sefer Torah pour faire Ataoreta, le Yetzahara il est venu me voir. Il m'a dit, pour qui tu te prends pour faire Ataoreta? Pour qui tu te prends? Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, mais j'ai étudié la Torah, j'arrête pas d'étudier la Torah. Alors le Yetzahara lui répond, il dit, moi j'étais avec toi quand t'as étudié la Torah, et moi je t'ai mis de l'orgueil dans la tête quand t'as étudié la Torah. Alors il répond, il dit, je lui ai répondu, je lui dis, oui, mais moi je suis parti faire du chesed, il faisait beaucoup de chesed, il aidait beaucoup les gens. Le Yetzahara lui répond, il lui dit, moi aussi j'étais avec toi. Pour aller aider les gens et pour que tu aies un sentiment d'orgueil. Et comme ça, il y a chaque fois, quand je disais au Yitzhara que voilà ce que j'ai fait et voilà pourquoi moi je prends le Sefer Torah, le Yitzhara lui répond, il lui dit, moi aussi j'étais avec toi. D'accord? Alors à la fin, hein, je sais pas, c'est quoi, je crois que la fin de l'histoire, d'accord, c'est qu'apparemment il y avait une mitzvah qu'il avait fait, j'ai oublié quelle mitzvah, je sais même pas si t'as dit quelle mitzvah il a fait, que dans cette mitzvah, il n'y a eu aucune arrière-pensée. Et là, quand le Yitzhara il a entendu ça, il a dit, c'est bon, tu peux y aller. Alors c'est une image, hein. Et pour dire quoi? Pour répondre à la question de Abraham, qui dit que, faites passer, qu'en vérité, partout où on va, le Yetzer Hara est toujours là. C'est bon?
Le remède, c'est la Torah.
Excuse-moi. Le remède, si tu veux, c'est la méthode de celui qui est intelligent pour contrer le roi qui est imposant. Mais il doit constamment être en train de se battre. Il n'y a pas de remède constant. Tu comprends ce que je veux dire?
Quand en étudiant la Torah, automatiquement tu luttes, tu vas.
Mais il faut étudier constamment.
Ah d'accord.
Tu comprends?
On peut étudier la Torah même avec un.
Et c'est vrai.
Un mauvais mal.
Bien sûr, c'est constant. Il faut toujours. Il attend. C'est écrit qu'il attend toujours à la porte. Il est toujours là. Pac, 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 pac. Même quand tu étudies la Torah, il est là pour t'amener l'orgueil. Allez, chévrer, on va dire les chaim. Bahouch adonai Elohim mecholam shehakol niyabid varon.
Et quand tu es en groupe, il n'a plus de force, puisque la puissance, elle est...
Il est toujours là.
Même quand tu es en groupe.
Toujours.
Là, il est là.
Et il est toujours là.
Bah oui.
Des fois, on arrive à le neutraliser. On arrive à le neutraliser, mais il est toujours là. Il est là à la table de Shabbat, il est là en cours de Torah, il est là à la synagogue, il est là partout.
On dit qu'il ne rentrait pas dans le synagogue, il ne rentrait pas quand on
étudie. Bien sûr, pourquoi les gens disent plus dans les synagogues? Pourquoi les gens, ils entendent quelque chose, ils disent, ah, t'as vu celui-là? Même s'ils le disent pas, ils le pensent. Parce qu'il est toujours là. Et même quand tu crois qu'il est pas là, il t'attend au tournant et il va pas te lâcher. Mais d'un autre côté, il y a le bon penchant. Ça, pour moi, vous savez, ce pérec-là, ce chapitre-là, explique vraiment beaucoup de choses. Rabotai. Ce pérec-là explique vraiment beaucoup de choses. Parce que, très souvent, on a ce paradoxe en nous. Rappelez-vous, c'est la question qu'on avait posée quand on avait fait Fabringen pour commencer le Tania. C'est une grande question qu'on a en nous. Des fois, tu commences une journée, t'as l'impression que t'es à fond dedans, etc. Et quelques heures plus tard, t'as l'impression que t'es complètement à côté de la plaque. Après, le soir, tu reviens dans la Torah. T'as l'impression, tu dis, mais qui suis-je? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, est-ce que tout est faux? Des fois, tu comprends pas ce qui se passe. Des fois, pendant quelques secondes, quelques minutes, tu peux t'oublier. Et après, tu reviens comme si de rien n'était. Mais tu comprends, tu dis, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis bien ou je suis pas bien? C'est très compliqué à répondre à cette question. Quand on veut répondre honnêtement. Parce qu'il faut savoir que l'Admon Razaken, il attendait de ses chassidim le Emet. Le émettre, ça veut dire la vérité intérieure, ne pas se mentir. Il ne supportait pas qu'on se mente. Parce qu'on peut toujours se mentir. On peut dire, non, mais écoute, par rapport aux autres, je suis bien, tu comprends. Il faut savoir que les juifs, on est une minorité dans le monde. Et dans cette minorité, il y a une minorité de religieux. Et dans cette minorité de religieux, moi, je suis un cours de Tania. D'accord? Combien assiste un cours de Tania? Etc. Tu peux toujours, comme on dit, se valoriser. Et comme ils disent en hébreu, se taper sur le ventre. D'accord? et dire bon, s'il souffre de méa et se dire voilà, Baruch Hashem, j'ai fait, d'accord, comment dire
en arabe, il dit Taoulou
Sarkli. Ouais, alors rallonger pied, ouais.
Voilà, tu peux toujours le faire. Mais quand on réfléchit honnêtement, bien sûr c'est légitime, d'accord. Mais quand on réfléchit honnêtement, quand on réfléchit honnêtement,
rallonge les pieds.
C'est très galop.
D'accord.
C'est très galop.
Oui, monsieur le Marocain.
Vous êtes en minorité, taisez-vous.
Ah. Est-ce que je vous
majorité, on est combien?
Alors. Donc, je reprends. Je reprends ce que dit le. Donc, quand on est, qu'est-ce qu'on disait? Oui. On peut toujours se rassurer et se dire, attends, la vérité, par rapport aux autres, j'assure. Regarde, par rapport aux autres membres de ma famille, par rapport aux autres personnes que je connais. Je fais un... et c'est vrai, c'est pas faux, comme a dit David, c'est vrai. Des fois, on a fait un parcours, et il faut pas être tout constamment en train de dire j'ai rien fait. Il faut se dire qu'on a fait quelque chose. Mais d'un autre côté, quand on est sincère avec soi-même, on sait qu'il y a un paradoxe. Et on sait que des fois, on est à fond dedans, des fois, on n'est pas du tout dedans. Ce paradoxe peut s'expliquer uniquement s'il y a deux moteurs à l'intérieur. Parce que si on n'avait pas cette réponse qu'il y a deux moteurs à l'intérieur, on aurait dit, mais c'est pas possible, tout est faux alors. Quand je fais une avéra, c'est faux, quand je fais une musée, c'est faux, c'est impossible. La réponse, c'est qu'en vérité, tout est vrai. Seulement, une fois, j'utilise ce moteur, une autre fois, j'utilise ce moteur. Et c'est ça la difficulté de libre arbitre, c'est que, est-ce que je vais réussir à décider à utiliser le bon moteur? Des fois, j'arrive, des fois, j'arrive pas. Et c'est comme ça. C'est comme dans ce combat entre le roi et le chacham, et celui qui est le petit vif. Des fois, c'est un qui gagne, des fois, c'est l'autre qui gagne, et c'est comme ça, ça s'arrêtera jamais. Et c'est la vie. D'accord? Très difficile. Oui. Attends, il y avait une question du second Avner, depuis tout à l'heure, oui.
Il y a deux pièges dans.
C'est un combat très difficile.
C'est bon. Excusez-moi, j'arrive pas à entendre la question d'Avner. David, tu nous fais un peu d'or là. Alors. Oui.
C'est-à-dire que le premier piège du SRRA, et c'est le plus important à éviter, c'est d'être découragé en fait. Parce que quand tu te regardes dans la glace et tu dis. Voilà, je fais le beau, je vais à la synagogue, je suis machin, je fais le tzadik devant les autres.
J'ai une grande barbe.
Et en fait, très bien ici sans barbe. Bon, mais s'ils veulent laisser pousser.
Bon, alors oui, alors la question, oui.
Et donc, en fait, quand lui, il se regarde dans la glace, il se dit, bon, je suis un bidon, quoi. Je fais semblant, je fais semblant, je suis un bidon, je fais pour l'apparat, pour les autres, pour l'extérieur, pour
chauffer
en fait, un bidon. Alors ça, c'est vraiment.
Ça peut décourager.
Ça, c'est vraiment le. Ça, c'est le succès du Yetzer Hara.
Bien sûr.
Ça peut être un moteur aussi.
Mais c'est pour ça qu'on a la réponse ici.
C'est pas un moteur.
Je pense que c'est l'inverse.
Quoi ?
Je pense que c'est l'inverse.
Ça veut dire quoi l'inverse ?
Parce que s'il pense ça, c'est que justement, il y a une.
Non, parce que non, parce que comme il a dit, parce que on a une façade extérieure qui correspond à la majorité de nos actes. Mais on a aussi une minorité de nos actes qui malheureusement ne correspond pas à la façade qu'on donne.
S'il reconnaît qu'il dit ouais, je suis bidon, c'est quelque part c'est le côté qui parle.
C'est en bas.
Le
côté.
Oui.
Vous
avez raison ce que vous dites. Mais ce qui veut expliquer, c'est que à cause de ça, quand on se dit je suis bidon, ça peut m'amener à me décourager. Et quand on se décourage, on arrête tout. C'est un piège.
Ah, il ne faut pas se surestimer.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, à force de se dire je suis naze, ce que je fais ne vaut rien, c'est du bidon, donc je m'arrête. Donc du coup, je m'arrête. C'est un piège.
Le fait de le dire ou de le penser.
Vous le voyez dans le sens positif, mais ça peut se comprendre négativement.
D'accord?
Non, mais c'est vrai, ça veut dire comme ça. Mais d'ailleurs, on va en parler plus tard dans chapitre 26. C'est chapitre 26. Il va expliquer comme ça. Il va dire. Il va expliquer là-bas dans chapitre 26. D'ailleurs, je vous donne les noms des chapitres, comme ça ceux qui veulent développer peuvent aller voir. Dans le chapitre 26, il va expliquer cette notion que dans un combat de boxe, j'ai modernisé un peu la définition, mais quand deux personnes se battent, celui qui gagne, c'est pas le plus fort. C'est celui qui est le plus déterminé. Et qu'à un moment, dans le combat, il y en a un qui se dit. J'ai perdu. Il n'a pas encore perdu, mais dans sa tête, il a perdu. Ça, vous savez, vous le voyez dans les yeux. Dans les yeux de celui qui se bat. Tu les vois à un moment, tu les vois les yeux, quand les deux ils démarrent, tu les vois, ils démarrent avec des yeux de vainqueur. Et à un moment, tu vois, on le voit dans les yeux, ça exprime beaucoup ce genre de choses. Et tu vois que les yeux paquent, tu vois que les yeux se sont éteints.
Ils s'affaiblissent.
D'accord? Ils s'affaiblissent. Même si c'est un colosse, il est très très fort. Ben, il va perdre celui-là, même si l'autre est moins fort. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà découragé. C'est vrai. C'est la même chose que le Yetzarara. Le Yetzarara, il utilise beaucoup ça, il veut beaucoup nous décourager. D'accord? Oui, mais voilà, ça veut dire qu'on a le droit de douter. Mais dès qu'on décide, qu'on décourage, c'est la Torah.
Voilà.
Le Yetzarara, il n'est pas dans
la fatalité. Il y a un autre aussi.
Le Yetzarara, il n'est pas
dans moi. Ah ouais,
il est dans nous, bien sûr.
Il a son quartier. Il y a
tout. Le cœur.
Le cœur. Il va utiliser les fonctions du cœur pour
s'exprimer.
S'exprimer, mais il n'est pas dans nous.
Bien sûr.
Le Satan, le Malach HaMavet, le Yetzarara, c'est la même.
Oui, c'est le même, parce qu'ils ont le même but, mais il est en nous, le Yetzarara. Il est dans le cœur.
C'était un Malach.
Il est en nous. Donc, on va résumer Rabotai. Comme ça, on continue. Alors, je réponds à la question tout de suite. Hein. Rabotai.
Allô.
Les amis. Alors, on va résumer. À l'intérieur de nous, nous avons un Yetzarara. Donc, nous avons un mauvais penchant. Nous avons un Yetzer Tov, un bon penchant. Ils sont en nous. Maintenant, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est ça que je fasse, que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord. Deux séries. Quand je nais, il y a deux moteurs en moi. C'est comme ça. Il y a un bon moteur, un mauvais moteur. Maintenant, quelle est la marge de mon libre arbitre? La marge de mon libre arbitre, c'est la décision que je vais faire. Est-ce que je suis le bon penchant ou est-ce que je suis le mauvais penchant? Ça, c'est ma marge de décision. D'accord? Et ça, c'est mon libre arbitre. Je décide, est-ce que j'écoute lui ou est-ce que j'écoute lui? Et ça, c'est ma décision. Ça veut dire qu'en vérité, il nous manque un détail. Un beau taille. Dans l'exemple, quand j'ai donné tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un roi et il y avait un haram. Mais il nous manque quelqu'un. Il nous manque l'arbitre. L'arbitre. L'arbitre, c'est comme, on dit bien en français, le libre arbitre. L'arbitre, c'est celui qui dit, bon, maintenant à toi de jouer, maintenant à toi de jouer. Et quelque part, l'arbitre, c'est moi. C'est moi qui dis, oui, Sarah, bon, vas-y, maintenant à toi de jouer. Et là, il dit, non, toi, tu arrêtes de jouer, maintenant c'est ton tour. Parce que l'arbitre, quand il parle, on l'écoute.
C'est qui, moi?
D'accord? Moi, c'est mon libre arbitre.
C'est qui, moi?
Moi, c'est celui qui a la capacité de dire oui et de dire non. C'est tout. Ça veut dire que la seule marge de décision, en vérité, c'est qui, moi? C'est ma capacité de décision. Ça, c'est moi. Tout le reste, c'est pas moi. La preuve, c'est quoi? C'est que je nais avec une nature que je ne maîtrise pas. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui est rigoureux, qui décide de devenir bon, il n'arrivera pas. Par contre, ce qu'il peut décider, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut décider à savoir est-ce que je suis ma nature ou je ne suis pas ma nature. Mais il ne pourra pas changer sa nature.
Créer une nouvelle nature.
Non. Une seconde nature.
Seconde,
on ne peut pas créer. On peut pas changer. Tu ne peux pas changer. On peut pas. C'est impossible. Tu peux créer une seconde nature. C'est impossible. Parce que moi, c'est quoi le moi? Le moi, c'est ma capacité de décider. C'est la seule chose que je maîtrise. Tout le reste, quelle nature j'aurai, quelles pensées vont passer par la tête, qui je veux être, quel style j'aurai, je maîtrise rien du tout. Par contre, ma capacité de décider, est-ce que je pense à ça, je pense pas à ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je veux pas ça, ça c'est moi.
Pas compris qu'on maîtrise pas ce qu'on veut être.
Tu maîtrises pas ce que tu veux être.
Bah non.
Tu maîtrises rien du tout.
Tu maîtrises.
Ah, c'est parce que c'est quoi les nerfs? Je maîtrise de pas exprimer mes nerfs. Mais je peux pas m'exprimer de pas m'énerver. Je peux pas décider. Imagine-toi par exemple que quand on me tape dans le dos, ça m'énerve. Je ne peux pas décider que ça m'énervera plus. C'est impossible. Je peux décider que même si ça m'énerve, je décollerai pas de droite. Ça, je peux décider.
Mais ça m'énerve.
Et tu peux rien faire. La seule chose que je peux maîtriser, c'est la décision. Je peux stopper à la dernière seconde. Tu dis non, je le fais pas.
Il y a des gens qui se maîtrisent pas aussi.
Exactement, bien sûr.
Il y en a qui se maîtrisent pas.
Qui n'arrivent plus à se maîtriser. Théoriquement, on peut tout maîtriser, mais.
Voilà. De yoga.
Bon, alors on continue.
Il y a des gens qui sont capables de travailler
sur lui-même. Elle est rabotaille. Veillez à gouf, coulo, malemehem, levadam, velo, yavor, zarbetoro, chasvechal. Donc, qu'est-ce que veut le Yetzer Tov? Maintenant, accrochez-vous. On va dresser maintenant le portrait d'un juif imaginaire. D'accord? Vraiment, c'est un juif imaginaire. Qui n'existe pas, à moins que c'est un tzaddik, et encore.
L'idéal.
Mais, on va expliquer comment le Yetzer Tov s'imagine qu'on devrait être. Donc on a commencé à expliquer un petit peu là. On a dit, s'imagine que le corps entier le suit et que le corps entier comme un char, comme le volant. Mais là on va aller encore plus loin. Il va expliquer vraiment les définitions. Et là vous allez voir quand on va lire ça, on va dire, bah attends, dis donc bon courage. Je sais pas si c'est une personne qui existe comme ça, mais c'est important de le savoir parce que c'est important de savoir où lui il veut aller. Après on expliquera où le Yetzarara veut aller. Et comme ça au moins on comprendra quel est le combat. Parce que même si on n'arrivera pas à la destination, c'est important de savoir qu'est-ce que chacun veut. Quand on sait qu'est-ce que chacun veut, c'est déjà important. Donc on continue. Et tout ce qu'il dit ici, c'est basé sur des textes. Donc dans les mots, veillez à gouf. Alors, on va reprendre dans les mots, hein, pour ceux qui ont perdu la ligne. 135. Voilà, en haut de la page 135, Razak. Mmh. Alors, veillez. Ah, je t'ai pas vu. J'ai pas vu que t'étais là. Alors, quand t'es arrivé? J'ai pas vu rien. Hein?
Quoi? Il y a deux minutes.
Hein?
Quel compliment, tu as maigri, t'as beaucoup maigri. Hein?
Non, mais.
Non, il a même distribué des bonbons, là, vous l'avez pas vu.
C'est ça, depuis quand t'es arrivé? Je t'ai pas vu.
Avant d'arriver.
Dans le cours. Voilà. T'es passé incognito.
C'est discret.
Alors, veillé à gouf kulo malé mehem levadam velo yavor zar betocham chas veshalom. Qu'est-ce que veut l'âme divine? L'âme divine veut que le corps entier, le corps, les membres, tous les membres, soient emplis. Il y en a que pour lui, que pour l'âme divine. Je pense du bien, je dis du bien, je fais du bien, je marche pour le bien, tout que du bien. Et que aucune pensée étrangère, chas veshalom, ne vienne se greffer à ça. Ça, c'est la volonté de l'âme divine. Maintenant, on va entrer dans les détails. Daïnou, ça veut dire, voilà le topo, comment s'imagine l'âme divine, comment elle s'imagine que je devrais être. Et honnêtement, j'ai lu beaucoup de commentaires qui disent que la raison pour laquelle Admor Hazaken nous dresse ce portrait, alors qu'on sait évidemment qu'on n'arrivera pas à être comme ce qu'il va dresser, c'est parce que même si on ne peut pas être toute notre vie comme ça, mais temporairement, on peut être comme ce qu'il dit ici. Et vous allez voir que on va essayer de se rappeler de certains moments de notre vie. Et on va se rappeler que peut-être dans certains moments de notre vie, pendant quelques heures ou quelques minutes, on était comme ça.
Comment, pardon, j'ai pas...
D'accord ? Il va nous dresser un portrait. D'accord ? Il va nous dresser un portrait, si tu veux, d'un juif qui est vraiment à fond dedans. Même à fond, c'est pas le mot. Comme vous allez voir, après ce qu'on va dire.
Le portrait de l'homme idéal.
Le portrait de l'homme idéal. Et pourquoi il nous le raconte ? D'abord, pour nous montrer quelle est la volonté de l'âme divine. Quelle est la volonté de ce moteur, où il veut nous amener, numéro un. Mais numéro deux, pour nous montrer aussi que quelque part, c'est un idéal qu'on peut atteindre, peut-être pas sur toute la durée, mais au moins sur quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on peut l'atteindre. Et je pense que toute personne qui a fait Teshuva va se retrouver un peu dans ce qu'il va dire ici. C'est-à-dire qu'on est passé par des périodes dans lesquelles on était un peu comme ça. On y va. Daïnou, ça veut dire, une personne qui fait Teshuva, il pense qu'à ça. Il se lève avec ça, il dort avec ça. Dès qu'il commence à discuter avec ses copains, de quoi il parle? Il parle de ça, il parle de la Torah. À tel point que ses copains, ils lui disent, ça y est, basta, il y en a marre. D'accord? Alors, tu nous as cassé les pieds. Mais le bonhomme, il faut pas lui en vouloir. Le bonhomme, il est à fond dedans. Il est dedans. Ça veut dire quoi? Donc déjà numéro un, dans le topo qu'on dresse de ce juif-là, d'accord? Son cerveau est pris à 100% dedans. Il pense qu'à ça. Vous savez, c'est comme, on dit, c'est un exemple qu'amène le Zohar, il dit, c'est comme l'amour. Quand une personne, par exemple, est tombée amoureuse d'une femme, d'accord, il peut tomber des fois tellement amoureux qu'il se lève avec ça, il dort avec ça, il pense avec ça. Dès qu'il parle à quelqu'un, il pense avec ça, il sourit tout le temps, toute la journée, il sourit. Bon, on ne sait pas pourquoi, d'accord. Il est là tout constamment en train de sourire, d'accord. Il est heureux. Il se lève heureux, il dort heureux, il marche heureux.
Le bonheur, d'accord.
Eh ben, Rabotai, ce qu'il faut savoir.
Attends, d'accord. Quand il va pousser.
D'accord.
Pendant quelques années, il va se sarrer, quoi.
On dit que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue.
Oui, enfin les premiers jours.
D'accord. Alors je pense c'est une blague. Hein. Je continue. Donc, comment s'imagine, d'accord?
Tu parles de mariage, de quoi tu parles?
Bezrat Hashem, amen. Alors, comment s'imagine l'âme divine? L'âme divine, d'abord, elle s'imagine comme ça. Elle dit, moi, comment je m'imagine le corps idéal? D'accord, l'âme animale, après, elle va s'imaginer le corps d'athlète, etc. et tout. Ben, c'est l'âme animale. L'âme divine, elle s'imagine, le corps idéal, c'est quoi? C'est une personne, d'abord, numéro un, intellectuellement, il a la tête à fond dedans. Il pense qu'à ça toute la journée. Il pense qu'à Dieu toute la journée. Voilà comment l'âme divine aurait aimé qu'on soit. Donc ça veut dire, klat mochin shevarosh. Rappelez-vous qu'on avait expliqué que dans la capacité intellectuelle, il y a trois choses. Numéro un, la capacité d'innover, d'avoir des idées, chorma. Numéro deux, bina, la capacité de réfléchir à un même concept, de le développer. Numéro trois, da'at, s'attacher à quelque chose. Lui, qu'est-ce qu'il veut, l'âme divine? L'âme divine, elle veut que toute notre capacité d'innover, notre capacité de réfléchir, notre réflexion, tout, on pense qu'à ça. Et on voit que BMF, les gens qui font Teshuva, ils vont nous raconter qu'ils étaient comme ça. Que pendant quelques temps, ils étaient comme ça. Ils pensaient qu'à ça. À tel point qu'ils avaient l'impression que le Yetzara était éteint. Malheureusement, quelques mois plus tard, le Yetzara revient à la charge, je vous rassure. Parce que sinon, on serait des tzadikim. Mais quand on est en démarche de Teshuva, on est tous en démarche de Teshuva. Parce que par exemple, quand c'est avant Kippour, etc., on est dans une démarche dans laquelle on s'en dit, ah, ça y est, le Yetzara, je l'ai pris, je l'ai éteint. Knockout. Je l'ai éclaté, il est par terre. D'accord? Et ça y est, il est down, il est mort. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le bonhomme, il réfléchit qu'à ça, il pense qu'à ça. Numéro un. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'expliquer? Est-ce que vous avez déjà eu des moments dans votre vie dans lesquels, toute la journée, vous pensez à Dieu?
Tous les jours.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Tout le temps.
D'accord? D'accord.
Mais il y a des moments.
Ça dure pas longtemps.
Ça dure pas longtemps, mais il y a des moments aussi.
Ah, c'est tout le temps que ça dure pas longtemps.
Non. Des moments, je réponds pas à la question d'abord.
Là, parce que quand on dit de penser des fois, on n'a pas forcément une pensée profonde sur une chose précise.
Voilà. Ça peut être profond aussi.
Malgré que ce soit Dieu.
Ça peut être profond. C'est un bonhomme qui est à fond dedans. Vous savez, on dit en général, les gens qui sont dans une démarche de teshuvah, ils ont le feu. Ils s'arrêtent pas le bonhomme. Tu vois, t'as vu cette mise à que je viens de faire? Partout, ils voient le feu. À tel point que même des gens qui sont religieux disent, ça va. Détends-toi, tranquille. Ah oui, le croisé habitué, on le connaît. Non, mais des fois même, je me retrouve avec eux, je dis, freine un peu. Mais du coup, le bonhomme, tellement il est parti, que c'est fini, dès qu'il y a une mitzvah à prendre, à 5h du matin, il est là pour faire ta mitzvah. Il s'arrête pas. Il pense qu'à ça, il dort avec ça, il se lève avec ça. Ça, c'est la pensée. Ensuite, à part la pensée, on avait expliqué qu'il y avait les sentiments. Ah, pareil. C'est quoi les sentiments? La capacité d'aimer. La capacité de craindre. D'accord? La capacité d'être harmonieux. Tout ça, c'est les capacités qu'on a en nous. Celui qui est en démarche de teshuva, eh ben, toutes ces capacités, il les utilise dans la kdusha. Sa bonté, la capacité d'aimer, il va l'utiliser pour aimer à Kadosh Baruch Hu. La capacité de la rigueur, il va l'utiliser, justement, pour se séparer du mal. À tel point qu'il va aller très très fort. Il va se séparer de sa famille, il va se séparer de ses amis. Des fois, c'est trop. Mais il est tellement dans une démarche qu'il doit tout s'arrêter, qui coupe tout. C'est-à-dire que tout est exprimé dans la Kedusha. D'accord? Ensuite, par exemple, dès qu'on veut lui parler de l'humilité, il se sent petit par rapport à Kadosh Baruch Hu. Dès qu'on veut lui parler de l'envie de gagner, il dit oui, je vais gagner mon Yitzhara. Et le bonhomme, il se lève avec ça, il dort avec ça, il est constamment dedans. Il est à 100% dedans. Ça, c'est le topo, comment on s'imagine, l'âme divine, comment on aurait dû être tout le temps. D'accord? Seulement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous arrive quand on fait Teshuvah? Parce que quand on fait Teshuvah, on est ébloui par une grande lumière. Quand t'es plus par une grande lumière, waouh, tu vois que ça. C'est comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de celui qui est amoureux. Quand il est amoureux, c'est Shlomo Améler qui dit ça. Le roi Salomon, il dit, celui qui est amoureux, il pense à ça, il réfléchit avec ça, il dort avec ça, il aime ça. Tout ce qu'il fait toute sa vie tourne autour de ça. C'est bien la même chose. Une personne qui aime Akadosh Baruch Hu, des fois, il est tellement dans une démarche d'amour envers Akadosh Baruch Hu, que le bonhomme pense qu'à ça. L'âme divine s'imagine qu'on aurait dû être comme ça toute la vie. Seulement, malheureusement, on n'est pas comme ça. D'accord? Ça, c'est comment l'âme divine s'imagine. Comment l'âme animale s'imagine qu'on devrait être? Exactement le contraire. Elle s'imagine que toute la journée, tu penses qu'aux bêtises. Tu te lèves avec les bêtises, tu dors avec les bêtises, tu fais les bêtises, tu vas pas à la synagogue, tu fais rien, tu fais des avérotes. Dès qu'il y a une avéra à prendre, tac, tu la rates pas. Attention, chas v'shalom, tu vas rater une avéra. Dis, mais tu t'imagines? Ça se reproduira jamais. Comment t'as raté une occasion comme ça? D'accord? Il y a le temps qui dit, ça va calmer, il dit, mais non, une avéra, ça se reproduira jamais. Cette avéra, c'est une occasion en or. Et le Yitzhara, il clash pas. Lui, ce qu'il veut, le Yitzhara, il veut que chaque occasion, chaque kiff, tu le prends. Ça n'existe pas qu'on rate un kiff. Ça n'existe pas qu'on rate une avéra. Chaque avéra, il faut la prendre. Ça, c'est comment le Yitzhara, il voit. Vous imaginez maintenant que quand vous mettez les deux moteurs dans la même maison, quand vous mettez ces deux moteurs dans le même corps, un, il veut tirer complètement à droite, l'autre, il veut tirer complètement à gauche, et ben, l'homme est tiraillé. D'accord? L'homme, il sait plus où il va, il en peut plus. D'accord? Et c'est une guerre, hein? Il peut pas, il est bloqué. Donc, mais en tout cas, maintenant, on a eu un petit peu le topo du juif religieux tel que s'imagine l'âme divine. Donc, dans les mots. Daïnou, ça veut dire, je reprends des Aïnou. Alors, on est Daïnou, voilà, en bas, au milieu de la page 135. Daïnou, ça veut dire. Comment s'imagine l'âme divine qu'on devrait être? D'abord, l'âme divine a dit, t'as un cerveau pour réfléchir. Ce cerveau, moi, j'aurais aimé qu'il soit le maîtrisé à 100%, qu'il soit que pour un Kadosh Baruch Hu. On pense qu'à des divrei Torah, on innove que des divrei Torah, on dit que des divrei Torah, à 100% pour Dieu. D'ailleurs, ça veut dire, l'âme divine te dit, mais quoi, t'as rien à réfléchir? Moi, je vais te donner à réfléchir. Sors dehors dans la rue. Regarde la nature. Ne pense pas au Avorot que tu vas faire. Regarde la nature. Imagine-toi comment ça va t'inspirer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pense comme Akadosh Baruch Hu est grand. Ne pense pas à la bêtise que tu vas faire. Pense à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ou le Olid Me'em, Alidahata'at, Ayira Memochu, Fachatashem Elibo. Il dit, réfléchis à tout ça jusqu'à ce que cette pensée va créer en toi la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Voilà comment s'imagine l'âme divine qu'on devrait être. Ensuite, Ve'avatashem ki eshboara belibo kerish peshalevet. Comment s'imagine l'âme divine? Elle dit, mais l'amour de Dieu? Mais c'est pas un amour qu'on doit avoir, c'est du feu. Elle dit, mais Akadosh Baruch Hu, mais c'est du feu que tu dois avoir vers Akadosh Baruch Hu. Exactement comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au Baal Teshuvah. On a l'impression qu'il y a le feu aux poudres et que le bonhomme, il n'y a rien qui l'arrêtera. Vraiment, ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, on a des Baal Teshuvah, on voit des Baal Teshuvah comme ça. Le bonhomme, tu as l'impression qu'il a le feu, c'est une fusée. Il a le feu, impossible d'arrêter. Et ben, l'âme divine, elle s'imagine qu'on devrait être comme ça constamment. Le feu. Parce que, vous savez, on va expliquer plus tard, qu'il y a deux catégories d'amour. Il y a l'amour comme le feu, il y a l'amour comme l'eau. C'est quoi la différence? Imaginez par exemple, c'est très simple. Imaginez par exemple quand j'ai très soif. D'accord ? Donc il y a du feu en moi. Ça veut dire que j'ai une soif, je veux boire. Très bien. Donc je cours, je transpire, je veux de l'eau, je cours. Je vais donner l'exemple de l'eau, on va donner d'autres exemples. Ensuite, à la fin, tu as trouvé l'eau. Tu as bu l'eau. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que tu fais après ? Tu fais, il y a du calme à ce moment-là. C'est quoi ce calme ? Ce calme, c'est comme l'eau. Il explique le Zohar, il amène du Zohar ici qui dit, c'est la même chose, par rapport à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. On va trouver les deux démarches qui sont deux démarches qu'on peut retrouver en nous. Une première démarche, c'est quand t'as le feu, on a l'impression qu'on cherche quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Tu cherches, et quand t'as trouvé, tu dis non, mais je vais encore plus, comme le feu. Ça, c'est une première démarche. Ça, c'est l'amour de Dieu comme le feu. Ça, on le voit beaucoup chez les Balei Teshuvah. Après, les tzadikim arrivent à un niveau dans lequel ils ont l'amour comme l'eau. C'est quoi l'amour comme l'eau? C'est qu'ils arrivent à un niveau qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Alors, pour illustrer ça, je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire. Je crois que je l'ai raconté une fois en cours de vendredi soir. Une histoire que raconte le Rav Stenzel, parce qu'il accompagnait cette histoire. Il raconte qu'une fois, d'ailleurs, il y a eu un livre qui a été fait récemment sur ça en Israël. Il y a eu une fois, un rescapé de la Shoah, qui, par hasard, on sait qu'il n'y a pas de hasard chez nous, c'est par Akadosh Baruch Hu. Il était, donc, apparemment, il a visité le Yad Vashem, le musée, d'accord? Et il a découvert, entre guillemets, par hasard, qu'il avait un fils qu'il croyait mort, qui était en fait vivant. D'accord? Il a découvert comme ça. Alors, il raconte, je sais pas si vous imaginez, il était déjà d'un certain âge, il découvre qu'en fait, il a un fils qui n'habite pas en Israël, qui habitait, je crois, aux États-Unis, qui est vivant. Il est vivant. Et donc, du coup, il fait des démarches pour essayer de le retrouver, parce qu'on savait qu'il était vivant, après il fallait le retrouver, où il habite, etc., quelle communauté. Donc, il fait toute une démarche pour essayer de le retrouver. Et ils ont fait un livre ensemble, le père et le fils. Et dans ce livre, il raconte comment, le père raconte comment, il avait une soif de retrouver son fils. Il était impatient. C'est-à-dire, il dormait avec ça, il se levait avec ça. Il disait, imagine, j'ai un fils, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il n'est pas encore en vie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Toute la journée, il vivait avec ça. Et même quand c'est malheureusement dans des situations comme ça, on a souvent des déceptions. Déception, ça veut dire que tu croyais que ça allait être la bonne communauté, etc. Et il s'avère que tu t'es trompé. Et donc, il dit, et chaque fois qu'il y avait une déception, je me dis, non, mais je vais trouver. Très bien. Il raconte qu'après, avec le temps, donc ça lui a pris quelques mois, et à la fin, il a fini par trouver la ville où habitait son fils. Et il a réussi à le joindre. Bon, grande émotion, etc. Et là, à ce moment-là, il raconte, il dit, bien sûr, je sais pas qui c'est qui a payé le billet d'avion. Bon, en tout cas, ils sont donné rendez-vous. Le fils devait arriver en Israël, Ben Gurion. Il arrive à Ben Gurion. Et là, le père, il raconte. Et le fils aussi raconte. Il dit, j'étais à l'aéroport, j'étais comme un fou. Mais t'imagines, mon fils, que je croyais mort, il va arriver comme un fou. Et il tient pas en place, le bonhomme. Ouais, il tient pas. Il se lève, il s'assoit. Il y avait des services à côté qui étaient là pour gérer au cas où, malheureusement, s'il y a une trop grande tension, ça peut, d'accord, Dieu préserve, le cœur peut lâcher. Donc il y avait des services qui étaient là pour essayer de gérer. Et il tenait pas en place. Il dit, mon fils descend de l'avion. Il vient vers moi. Et là, on s'enlace les uns les autres. Je me mets à pleurer. Il se met à pleurer. Et il raconte comme ça. Il dit, après un moment, il y a eu un calme. Un calme qui a duré plusieurs minutes, ou je sais pas combien de temps ça a duré. Et il raconte, il dit, dans ce calme-là, j'ai senti que, comme un calme intérieur, que ce que je cherchais, je l'ai obtenu. D'accord? Et là, il n'y a plus le feu qu'il y avait avant. Il y a un calme.
C'est l'exemple de l'eau.
D'accord? Exactement. C'est le sentiment que j'ai obtenu ce que je cherchais, et c'est l'amour. Alors, il explique, le Rav Stenzel, il dit que c'est un très bon exemple pour illustrer ce que dit ici l'Admor HaZaken dans le Tania. Il dit que, il y a l'amour comme le feu, et l'amour comme l'eau. L'amour comme le feu, c'est quand on cherche, le Baal Teshuva, il est là, il cherche, il sent qu'il manque quelque chose. Mais après, à la fin, le tzaddik, il arrive à un autre niveau dans lequel il a l'amour comme l'eau. Il cherche plus, il l'a trouvé. Il a déjà trouvé. Alors, comment s'imagine maintenant l'âme divine? L'âme divine, elle s'imagine comme ça. Elle s'imagine que on devrait être constamment à la recherche, le feu, jusqu'à ce qu'à la fin, tu aies trouvé, et là, t'as trouvé l'eau. Et là, t'es tranquille. Voilà comment l'âme divine t'imagine. L'âme divine, tu lui dis pour elle, c'est quoi ton but? Il dit, mon but, c'est de chercher. Chaque que je trouve, et là, quand je trouve, ta'anugim. Ah, va, mais ta'anugim,
c'est... Oui, mais l'autre, il continue à travailler quand même. Hein,
c'est ça le problème. Ah, ben, d'accord? Mais voilà, si tu poses la question à l'âme divine, comment tu t'imagines? Il dit, voilà comment moi, je m'imagine. Je m'imagine, on cherche le feu, comme ce fils qui cherchait son père et vice versa. Jusqu'à la fin, on a trouvé. C'est le kiff. Ça, c'est comment l'âme divine s'imagine la vie. De l'autre côté, il y a l'âme animale. Vous inquiétez pas qui le ramène à la réalité, qui dit, tu vas rester tranquille, moi je suis là maintenant. Et quand l'autre se réveille, l'autre aussi se réveille. D'accord? Mais c'est ça ce qu'il veut expliquer ici. Donc, l'âme divine, l'âme animale. Donc là, maintenant, on a dressé le topo du juif religieux. Du juif religieux tel que s'imagine l'âme divine. Qu'il est à fond dedans. Pas seulement ça. Vous savez, comme avait fait remarquer Avraham la semaine dernière, il avait dit que, on dit dans le schéma, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Comment on dit en hébreu le cœur?
Lève.
Normalement, en hébreu, comment on aurait dû dire de tout ton cœur? On aurait dû dire bechol libecha. Pas avec deux bêtes, on dit bechol levavecha. Avec deux bêtes. Qu'est-ce que dit Rachid? Parce qu'en vérité, donc ça veut dire qu'avec tes cœurs, est-ce qu'on a deux cœurs? On a un seul cœur. Qu'est-ce que répond Rachid? Il dit parce qu'en vérité, on doit s'efforcer d'aimer Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Ça veut dire avec l'âme divine, avec l'âme animale, avec le Yitzhara, avec le Yitzhara. Ça veut dire que même le Yitzhara peut aimer Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Comment on peut arriver à ça, aimer Akadosh Baruch Hu avec le Yitzhara? Ça, on aura la réponse la semaine prochaine. Ça va être la vraie histoire.
Même le Yitzhara peut aimer Akadosh Baruch Hu. Même le Yitzhara peut
aimer Akadosh Baruch
Hu. C'est l'heure de la pub, là.
Donc en tout cas, pour résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui, longuement, c'est bien arrêté sur le combat qui est à l'intérieur, expliquer comment il y avait deux moteurs, expliquer l'histoire de la petite ville, c'est quoi la petite ville, c'est quoi le grand roi, c'est quoi celui qui est intelligent, le Chacham, d'accord? Et le combat qui est constant, et on a dressé le topo du juif religieux tel que s'imagine l'âme divine. Donc maintenant, il faut nous expliquer la semaine prochaine comment s'imagine tout ça l'âme animale, et surtout, comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, et aussi, autre preview, un peu teasing comme t'appelais ça, la semaine prochaine, on répondra à une autre question qui est très 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 importante aussi, qui est, le Yetzer a été créé par Dieu. On est d'accord? Alors, pourquoi Dieu a créé un Yetzer Hara? Pour qu'on fasse le contraire de sa volonté. Comment on peut imaginer que Dieu a créé quelqu'un qui pousse à ne pas le servir?
À ne pas le servir, absolument.
Next week. D'accord? Voilà. Next week. Vezrat Hashem. Allez. N'oubliez pas la Mikhia.
Est-ce que ce n'est pas ne pas le servir, c'est le servir autrement?